merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci à vous d'être nombreux pour cette rencontre en partenariat avec le 1 Hebdo autour, dans ce grand cycle temps présent autour des nouveaux visages de la guerre et pour évoquer aujourd'hui les guerres africaines, une rencontre que nous allons mener avec Vincent Hugeux. Bonjour. Vous êtes grand reporter, acclamé pour tous vos travaux sur l'Afrique. Vous avez été aussi, vous avez fait des reportages dans l'Afrique depuis de longues années, et ça a été l'Afrique aussi l'objet d'une demi-douzaine d'ouvrages, dont L'Afrique en face, Reine d'Afrique, ou encore votre plus récent ouvrage, Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial. L'aspect post-colonial, je pense, ce sera une question dans laquelle on va revenir lors de cette rencontre. À vos côtés, Michel Blanchet, bonjour. Vous êtes président de l'association Brive Sicasso, association qui vise notamment à pousser des actions concrètes dans le cadre du jumelage entre les villes de Brive et Sicasso, qui est une ville au Mali. Le jumelage, qui, vous me le disiez, c'est il y a 40 ans que les deux villes sont jumelées. Et vous allez pouvoir aussi apporter justement votre regard de terrain sur la façon de pouvoir nouer une forme de solidarité, y compris dans un contexte de guerre comme celui qu'on peut connaître en ce moment au Sahel. Mais peut-être une première question, je me tournais vers vous, Vincent Hugeux. Vous avez travaillé, comme je le disais, très longtemps sur l'Afrique. Vous étiez notamment sur des théâtres de guerre, les années de plomb en Algérie, le génocide au Rwanda en 1994. Qu'est-ce qui vous a amené, d'une part, à travailler sur l'Afrique et d'autre part, à devenir reporter de guerre? Ce qui peut faire rêver certains jeunes journalistes, mais peut en effrayer beaucoup d'autres.
Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette invitation. Alors déjà, ce n'est pas une coquetterie, mais j'ai toujours réfuté le concept de reporter de guerre, y compris lorsque j'ai eu l'insigne honneur de recevoir le prix Bayeux des correspondants de guerre il y a quelques années, où j'avais tenté d'expliquer, tout en manifestant ma gratitude évidemment, que pour moi j'étais un journaliste qui va dans la guerre et non pas un reporter de guerre. Ça n'est pas mon identité professionnelle. Je n'éprouve aucune fascination pour le pouvoir que confère la Kalachnikov à l'individu lambda. Et pour reprendre une phrase de André Malraux dans Les Noyers de l'Altenbourg, il écrit un moment « Il faut faire la guerre sans l'aimer ». J'ai acquis la conviction au fil des ans qu'il fallait la couvrir en la détestant, mais en la poursuivant d'une exécration méthodique. Je crois que le danger principal qui guette le journaliste en situation de guerre, c'est précisément de céder à une forme de fascination. La fréquentation plus ou moins assidue de la mort, la puissance, encore une fois, qu'offre à un milicien de 14 ans un fusil automatique parfois plus grand que lui. Voilà. Moi, j'ai toujours été, je crois en tout cas, je m'y suis employé, à l'abri. Parce que je pense qu'on ne raconte bien la guerre que de cette manière-là. Et au fond, si vous connaissez un peu le travail d'un Jean Hatzfeld, par exemple, j'ai toujours été plus intéressé par les creux de la guerre que par une bataille d'artillerie que, de toute façon, une télévision racontera toujours mieux que moi et plus vite. Et je vais vous donner un exemple qui va nous éloigner mais 10 secondes de l'Afrique, mais qui me tient à cœur, puisque, comme vous le savez, l'actualité nous porte aussi vers l'agression militaire russe en Ukraine. Il se trouve que pour l'Express, hebdomadaire pour lequel j'ai travaillé pendant 30 ans, j'ai aussi couvert, disons, les guerres post-soviétiques, hein, Ukraine, Tchétchénie, Géorgie. Et je me souviendrai toujours, jusqu'à mon dernier souffle, de cette babouchka russe, qui était l'héritière de la politique de russification de la Tchétchénie déclenchée par Joseph Staline, qui pendant un bombardement, nous étions une cave, et à chaque raid de l'armée de Moscou, on voyait le plafond se fissurer, on croisait les doigts, et pour ceux qui y croient, on priait le Créateur pour que tout ça tienne. Et elle m'agrippe le bras, et elle me dit « mon garçon, explique-moi pourquoi ce sont nos fils qui nous bombardent ?» Et ces métèques de Tchétchènes qui nous conduisent au dispensaire. Et c'est ça que j'ai toujours eu envie de raconter. Bon. Voilà pardon pour ce petit détour géographique, mais je pense qu'il éclaire ma démarche. Alors maintenant, j'en reviens à votre question initiale. Il se trouve que je me la suis souvent posée. Alors, je ne vais pas faire de la sociologie à 3 francs CFA, mais très sincèrement, moi je viens d'une famille catholique ouvrière du nord de la France, pour laquelle la Belgique, c'était l'aventure, et le Royaume-Uni, un autre monde. Et je pense que ce qui m'a porté vers ce type de pratique du journalisme, c'était un besoin impérieux de décentrement. le besoin de se projeter dans d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres logiques. Vous savez, il y a la fameuse phrase « on voyage toujours pour comprendre où l'on va », et c'est un peu ce qui m'a guidé. Alors après, encore une fois, je n'ai pas décrété un jour que je serais reporter des guerres. Si quand j'avais 20 ou 22 ans, on m'avait dit que j'aurais couvert une trentaine de conflits armés dans autant de pays, je ne l'aurais pas cru. Mais simplement, c'est le prix à payer pour trouver les creux de la guerre. Des histoires d'hommes, des histoires de femmes. Et pas des histoires de stratégie. J'en fais beaucoup en ce moment, parce que mes activités actuelles me conduisent à... Mais très franchement, c'est ça qui m'a mu. Et c'est vrai que quand vous avez, d'une certaine manière, touché à ça, bon, une campagne électorale en Hongrie, on fait le boulot, on peut se passionner pour ça, mais c'est une forme d'intensité. Mais attention, encore une fois, il ne faut pas devenir l'otage et le prisonnier de cette sorte de dépendance qui peut devenir une addiction. J'ai des amis journalistes, hommes et femmes, pour qui j'ai une profonde estime, mais qui, à un moment donné, ont décroché parce que, précisément, il y avait un rapport quasiment toxicomaniaque à la guerre. Moi, j'ai toujours essayé, je dis bien essayé, de me tenir à distance de ce péril-là.
Vous aurez la question, je vais le dire d'abord, l'opportunité de poser vos questions à nos invités. On a appelé cette rencontre « Guerres africaines ». Est-ce que c'est une simple réalité syntaxique ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à la façon dont les guerres se déroulent, à la façon dont elles secouent le continent?
Je mène un combat sans espoir contre deux dérives, l'essentialisme et l'hystérisation du débat. Donc je m'efforce de lutter contre toute assignation identitaire et toute généralité du type, deux points ouvrez les guillemets, l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. On ne peut défendre ce postulat que si on ne connaît pas ce continent. Bon. Que la démocratie africaine soit en crise, oui. Que nous vivions aujourd'hui une phase de régression objective, il suffit de voir le nombre de putsch militaires à l'ancienne, hein, de coups d'État vintage, dont l'Afrique a été le théâtre, ne serait-ce que dans les deux années écoulées, pour s'en convaincre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas fondamentalement de différence en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler l'ensauvagement du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de guerre conventionnelle aujourd'hui, même si le tsar soviéto-impérial Vladimir Poutine essaye de ressusciter cet archétype. La plupart des conflits que j'ai couverts, notamment en Afrique, mais pas seulement, étaient des conflits locaux qui, en règle générale, résultaient de l'instrumentalisation de vieux contentieux, qu'ils soient communautaires, les lignes de fracture que l'on connaît entre agriculteurs et pasteurs au moment des transhumances, etc. La différence, c'est que les conflits en question, voilà 20 ou 25 ans, ils pouvaient se résoudre par une réunion de chefs coutumiers, de dignitaires religieux, et on se battait à coups de lance. Maintenant, l'autorité de ces dignitaires s'est effilochée, s'est étiolée, et on se bat à la Kalachnikov. Et tout cela a été notamment profondément manipulé par les cerveaux de l'offensive djihadiste, par exemple, dans l'ère sahélienne, et ça donne une autre dimension. Mais la dernière guerre qu'on peut qualifier de conventionnelle que j'ai pu approcher en Afrique, c'était le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée, après donc cette partition négociée, et c'était d'ailleurs à l'orée de ce millénaire. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a toujours une refonte de l'histoire, puisque qu'est-ce qui se joue en ce moment ? Vous avez donc une rébellion dans une province qui s'appelle la province du Tigré ou du Tigraï, selon la prononciation qu'on adopte. Et vous avez une alliance de revers entre le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, à qui on a offert de manière fort prématurée et imprudente un prix Nobel de la paix, comme si un prix Nobel de la paix pouvait couronner une promesse et non pas un accomplissement, je ferme la parenthèse, et il se retrouve donc maintenant l'allié de Isaias Afwerki, qui est un des anti-héros de mon dernier bouquin sur le tyran d'Afrique, très méconnu, une sorte d'archétype afro-stalinien quasiment romanesque. Et donc, voilà, c'est la dernière guerre conventionnelle. Toutes les autres conflits armés que j'ai pu couvrir, Mali, Soudan du Sud, Niger, Burkina Faso, etc., l'Est de la République démocratique du Congo, hein, l'ancien Zaïre, qui est une sorte de grand martyrologe. C'est là d'ailleurs que j'avais eu la chance de rencontrer, avant que lui-même soit couronné par le Nobel, mais lui il méritait, le docteur Denis Mukwege, hein, ce gynécologue obstétricien qui est un homme absolument admirable. Et petite pirouette, et je reviens à une question précédente, pourquoi je fais ce métier? Aussi pour rencontrer des hommes et des femmes d'exception qu'aucune autre profession au monde ne m'aurait permis d'approcher.
Je lisais tout à l'heure, dans votre dernier ouvrage, vous avez accolé au sous-titre le terme post-colonial pour montrer en quoi la permanence de ces tyrans africains est toujours une forme d'héritage de la période coloniale. Nous sommes aujourd'hui 60 ans, à peu près, après les soleils des indépendances, pour reprendre le terme de Kourouma. Est-ce que les guerres qui secouent l'Afrique aujourd'hui sont toujours des héritages de cette période coloniale? Est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Disons que c'est l'un des facteurs, l'une des inconnues d'une équation complexe. Tout expliquer par ce prisme-là est absurde. En nier la persistance est tout aussi inepte. C'est-à-dire que si l'on ne comprend pas que nous, Français, mais on pourrait dire de même pour d'autres ex-empires coloniaux, n'avons pas été capables de solder les arriérés de cette période, eh bien, on ne comprend rien. Et on ne comprend surtout pas l'audience absolument théâtrale que peuvent avoir des infox véhiculés, notamment par les réseaux sociaux, aujourd'hui dans un pays comme le Mali, par exemple. Si vous voulez, mon impression au fil de mes reportages, c'est qu'on a toujours voulu porter sur l'Afrique un regard homogène, comme si l'Afrique était une entité unique. Non. Vous savez, il y a un ouvrage ancien qui s'appelait Les 50 Afriques. Je ne sais pas s'il y en a 50, 30 ou 20, mais il y en a plusieurs, que ce soit en termes de sécurité, en termes d'essor démocratique. Et ce que je vois à l'œuvre aujourd'hui, c'est justement une régression, mais qui s'explique, à mon avis, très bien. Est-ce que, tout d'un coup, les peuples maliens, guinéens ou burkinabés ont cédé à la fascination toxique pour le jeune capitaine qui déboule en treillis à 19h pour lire un communiqué dont il n'est pas certain qu'il comprenne la teneur, invoquer l'intérêt supérieur de la nation et l'appel impérieux du peuple, etc. etc. Et d'ailleurs, on remet le couvert quand ça n'a pas fonctionné, ce qui a été le cas à 8 mois d'intervalle au Burkina Faso, l'ancienne Haute Volta, et à 1 an d'intervalle au Mali. Non, c'est très mal connaître ce qui fait vibrer les sociétés africaines que s'en tenir, encore une fois, à une lecture aussi simpliste, aussi essentialiste. Qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui? Mais nous, mais les Africains aussi, hein, pour danser le tango, il faut être deux. Hein. Et s'il n'y avait pas eu une alliance objective, par exemple d'un Omar Bongo avec la France Focartienne, la France-Afrique aurait été moins vaillante pendant des décennies. Ce qui se joue aujourd'hui, au fond, c'est le discrédit de pouvoirs qui, eux, sont des pouvoirs élus, des pouvoirs civils, et qui ont été incapables de tenir leurs promesses, que ce soit sur le registre de la sécurité, référence bien sûr à la poussée djihadiste qui menace maintenant les pays côtiers, et incapables aussi d'apporter un mieux-être, de lutter contre la corruption. Et donc, ce que j'entends partout, toujours, c'est en gros, on a essayé ça, on s'est battu pour eux. Comment expliquer que les acteurs de la société civile burkinabé, hein, par exemple le Ballet Citoyen, qui avait joué un rôle absolument crucial dans l'éviction de Blaise Compaoré, l'ancien dictateur, puis dans l'échec d'une tentative de putsch, de restauration par ses fidèles, eh bien, le silence du Ballet Citoyen aujourd'hui est assourdissant. Mais il nous raconte ça. Il nous dit comment aller à l'encontre d'un élan populaire. On a essayé ces systèmes réputés démocratiques, ça n'a pas fonctionné, donnons leur chance à. Et c'est aussi ce phénomène-là, cette intense frustration, cette perplexité, cette incompréhension devant, par exemple, l'incapacité de la 4e ou 5e armée du monde, l'armée française, d'anéantir les noyaux djihadistes, qui a donné une audience considérable à toutes ces thèses complotistes, conspirationnistes et simplistes. Donc il n'y a absolument rien d'irréversible dans ce phénomène. Mais si, encore une fois, on ne prend pas conscience des racines, si on persiste à essayer de raccommoder ce qui ne peut pas l'être, on part sur des très mauvaises bases. À court terme, je suis pessimiste. Et on parlera dans quelques instants, notamment de ce qui se fait à l'échelon local. Bon. Sur le long terme, les aspirations des jeunesses africaines que je fréquente et que je connais, elles sont universalistes. Elles sont les mêmes que les aspirations des jeunesses latino-américaines, asiatiques ou européennes. Bon. Nous vivons une phase de crise au sens étymologique grec du terme, d'une métamorphose douloureuse, mais il n'y a pas matière à désespérer. Une partie de la clé de l'échec ou du succès nous appartient.
Une dernière question avant d'évoquer l'échelon local pour affiner cette lecture postcoloniale. Est-ce qu'il y a dans la géographie des guerres de ce continent un héritage différent, par exemple, des colonies françaises et britanniques? Il y en a cette image, vous allez nous dire si c'est un cliché que la Grande-Bretagne a mieux réussi sa décolonisation que la France. Est-ce qu'on retrouve cela dans la géographie des guerres aujourd'hui?
C'est vrai que c'est un stéréotype assez tenace, et comme tous les clichés, il y a un fondement qui est pertinent et une interprétation qui est outrancière. Prenons l'exemple. J'ai entendu, moi aussi, pendant mes études et ensuite, des diplomates m'expliquaient qu'il y avait un modèle de décolonisation à la britannique qui était plus ordonné, plus pacifié, avec une gestion des élites locales plus intelligente, plus subtile. Bon, moi, je veux bien. Mais quand j'ai exploré, donc, par exemple, la trajectoire d'un Idi Amin Dada, qui fut un glorieux soldat du King's Rifle Regiment, qui était un peu l'élite de l'armée coloniale britannique, quand je vois l'extrême violence qui a dévasté l'Ouganda dans les années qui ont suivi l'indépendance, regardez le Kenya aujourd'hui. Le Kenya qui, certes, si les dernières élections ont été, Dieu merci, moins violentes que les précédentes, je me souviens d'autres élections antérieures, dans la décennie précédente, que j'avais également couvertes pour l'Express à l'époque, où tout ça s'était soldé du fait, encore une fois, de la manipulation des litiges identitaires et communautaires par des milliers de morts. Donc je trouve que là encore, c'est une explication qui pêche par essentialisme. Maintenant que la France ait réussi ce qu'on appelle au bowling un strike dans les égarements postcoloniaux, oui, bien sûr. Enfin, n'oublions jamais quand même que... un Armé de Sékou Touré, qui fait partie de mes anti-héros, qu'un Félix Houphouët-Boigny, le patriarche de l'indépendance ivoirienne, que évidemment un Léopold Sédar Senghor, ont été parlementaires et ou ministres français. Donc on aurait peut-être sans doute pu mieux réussir ce que les militaires appellent le tuilage, cette phase de transition, etc. Bon, maintenant, c'est à dire le mal est fait. Et pour faire un petit saut dans le temps, quand j'entends le président Emmanuel Macron nous expliquer, pour s'en prévaloir, que, de point ouvrez les guillemets, la France n'a pas de politique africaine, je comprends quelle est sa volonté. La volonté, d'ailleurs, qui était celle de tous ses prédécesseurs au moment de leur accession au pouvoir, de rompre avec, d'ouvrir un nouveau chapitre, etc. Mais moi, je me dis, mais quel dommage que la France n'ait pas de politique africaine. Il faut qu'elle en ait une, mais une autre.
Une politique africaine, c'est par exemple celle qui peut se mener au niveau associatif, Michel Blanchet. Est-ce que vous pouvez nous, peut-être déjà revenir pour nous, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Brief Sicasso, revenir sur la nature de cette association, la mission qu'elle s'est fixée, et puis qu'on revienne ensuite après sur la situation au Mali, justement, où est la ville de Sicasso.
Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier tout d'abord Vincent Hugeux d'avoir accepté d'animer cette rencontre-conférence, parce qu'on vous voit beaucoup, on vous lit et on apprécie votre analyse. Simplement, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, nous aussi, le jumelage coopération, il a 40 ans cette année, et c'était le désir de rencontrer d'autres cultures, d'autres civilisations, ce que vous disiez tout à l'heure, et nous sommes allés, nous aussi, à la rencontre de personnages exceptionnels à Sicasso. Je le galvote pas en disant exceptionnel. Et donc, ce jumelage est né aussi d'une volonté de sortir des sentiers battus, des jumelages classiques, d'échanges de clubs de sport ou d'associations à caractère folklorique, pour essayer de bâtir une coopération entre deux villes très éloignées, 6000 km, mais qui sont, c'est le mot du maire de Sicasso, si proches désormais. Donc, et puis Brief signifie pont en celte. Briva signifie pont, donc c'était un pont entre deux rives de la Méditerranée, deux villes, deux pays, voilà. Donc nous avons essayé, alors l'association n'est que l'instrument de la ville de Brive, on va dire instrument noble, mais c'est un instrument néanmoins, hein, de la ville de Brive pour conduire cette coopération. Donc c'est une coopération décentralisée, on échangeait tout à l'heure, une coopération décentralisée, ça veut dire que nous ne sommes pas, a priori, donc ça c'est un vrai débat dans notre association, impactés par les relations exécrables, détestables entre nos gouvernements. Et ça, c'est une volonté des deux collectivités et des deux associations qui coopèrent ensemble, voilà, sur des projets très concrets. On a essayé de développer cette amitié à travers des projets très concrets dans le domaine de l'éducation, de la santé, des microservices, accès à l'eau et autres. Un certain nombre de services qui ne sont plus assurés. Vous parliez tout à l'heure de la dégradation des services au Mali. Mais nous le vivons sur place et très directement. Il y a un appauvrissement du fonctionnement de l'État malien. Et donc, alors, on supplie très modestement avec d'autres ONG qui interviennent. Hein. Il y a beaucoup d'ONG dans le sud du Mali. Voilà, de façon très humble.
Est-ce que le travail de votre association est mis en péril par la situation au Mali depuis plusieurs années, la situation qu'on connaît, et avec l'offensive djihadiste dans le Sahel, est-ce que ça met en péril le travail de votre association ?
Sujet vaste et délicat. Alors, nous poursuivons actuellement nos coopérations. Nous ne rendons plus à Sikasso. La dernière déplacement remonte à janvier 2020. Donc, jamais on n'avait autant vu de Kalachnikov à Sikasso et de si près. Mais pas menaçante en ce qui nous concerne, mais néanmoins, on voyait quand même des Kalachs un peu partout. Deuxièmement, donc on poursuit, puisqu'il y a deux associations, une volonté des deux villes, donc on continue des projets à distance et avec des rencontres, alors plus à Sikasso, mais à Brive. Il y avait une délégation la semaine dernière, il y a quatre praticiens de l'hôpital de Sikasso qui vont venir en formation à Brive. Nous continuons nos projets avec l'aval, alors il faut le savoir quand même, des autorités ministérielles, puisque sur ce programme de santé, nous avons un financement du ministère de la Santé. Dont acte. Et l'ambassade de France nous demande surtout de ne pas lâcher. Donc, pas de repli, pas de renoncement en ce qui nous concerne. Voilà. Mais c'est beaucoup plus difficile puisqu'il n'y a plus ces contacts directs qui font le sel aussi de ces coopérations. Et alors on y pallie différemment, mais c'est évidemment plus compliqué. Il y a bientôt en décembre d'ailleurs sur notre région, nous relevons de Nouvelle-Aquitaine, il va y avoir un colloque sur les coopérations dans des zones à risque.
Vincent Hugeux, Michel Blanchet disait pas...
Contrepoint dans le sillage de ce qui vient d'être dit sans céder à la rengaine du small is beautiful, moi ce que j'ai vu pendant ces années de reportage de terrain, j'ai toujours été attentif à fréquenter davantage les bas quartiers et les provinces que les corridors des palais, où je suis d'ailleurs pas nécessairement le bienvenu. Ce qui fonctionne, c'est quoi ? C'est un projet d'irrigation pérenne où il y a une transmission de savoir et pas seulement de technologie. Bon, parce que c'est très bien de creuser un puits, mais il faut l'entretenir. Donc il faut avoir des relais locaux qui, justement, peuvent fonctionner indépendamment des turpitudes de relations diplomatiques bilatérales. C'est refaire le toit d'une école qui a été emportée. C'est ouvrir une petite maternité, un dispensaire, etc. C'est ça qui fonctionne. Et tout ça, c'est un peu sous les radars. Bon. Donc le fait qu'on découvre ici, hein, par votre voix, que en dépit de l'orage féroce qui pèse sur les relations entre Paris et Bamako, tout ça perdure, c'est plutôt rassurant. Petit clin d'œil, 40e anniversaire, 40e édition de la Foire du Livre de Brive. 40e anniversaire, en décembre, hein, donc, de ce jumelage entre Brive et Sikasso. Mais aussi, je n'aurais pas cassé l'ambiance, aujourd'hui, ce 6 novembre, 40e anniversaire de l'accession au pouvoir de Paul Biya au Cameroun. C'est-à-dire qu'un Camerounais, une Camerounaise quadragénaire n'a connu personne d'autre au pouvoir que Paul Biya. Et moi, je n'ai pas d'aversion particulière pour le personnage, mais ce que j'ai vu, quand on me laissait le loisir d'aller au Cameroun, ce qui est devenu un peu compliqué depuis que j'ai consacré un chapitre à son épouse, la très fantasque Chantal, dans un ouvrage précédent sur les reines d'Afrique, c'est que il arrive au pouvoir en 82. Deux ans plus tard, tentative de putsch militaire auquel il échappe d'un cheveu et demi. Et à partir de là, il développe ce qui est le propre de tous les despotes, une forme de paranoïa obsidionale, et il va anéantir quiconque peut apparaître, je dis bien peut apparaître, car tout ça est très souvent fantasmé, alimenté par un entourage courtisan, comme un rival virtuel. Et évidemment, dans la grande candeur des institutions internationales, il suffit de lancer une vaste et ambitieuse opération anticorruption, de l'appeler l'opération Épervier, faire à passe, ça fait sérieux, et sous cette bannière trompeuse, on met en cabane ou on force à l'exil des gens qui pourraient apparaître comme des alternatives crédibles. Donc juste ce petit détour sur le 40e. Mais moi, je vais vous donner un petit exemple tout simple, hein, qui, dans le même esprit que ce que vous faites ici. J'habite une petite ville au sud de Paris qui s'appelle Vanves. Et il se trouve que j'ai été sollicité par la présidente d'une association qui s'appelle Des Puits pour le Sahel. Eh bien, ils sont exactement dans votre situation. C'est-à-dire qu'ils continuent grâce à leurs relais locaux, mais ils ne peuvent plus y aller. Parce que c'est quasiment suicidaire. Pour avoir beaucoup travaillé sur les questions d'otages et ce qu'il faut faire pour aller chercher et qu'on ne vous racontera jamais, je peux dire que c'est une vraie responsabilité. Et s'agissant du Mali, j'y reviens, il se trouve que, voilà, assez longtemps, je voulais faire découvrir à mon épouse qui ne connaissait pas l'Afrique subsaharienne ce continent. J'ai hésité entre le Burkina Faso et le Mali à l'époque. Parce que loin des immeubles de verre et d'acier d'Abidjan, de Lagos ou de Nairobi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'authenticité africaine, hein, pardon pour le stéréotype. Et c'était une époque pas si lointaine, on pouvait partir de Bamako et monter jusqu'à Gao en suivant le fleuve, aller voir la mosquée de Djéné pour son crépissage annuel, etc., etc. J'ai l'impression de parler du siècle dernier, mais non. Bon, ça dit assez la dégradation du climat général. Et à cette époque, on rencontre un jeune écolier qu'on va ensuite accompagner, épauler un peu modestement. Hein, je continue à communiquer avec lui. Il vit dans le pays d'Ogon, près de la falaise de Bandiagara. Ceux qui ont eu la chance de visiter le Mali verront de quelle splendeur je parle. Et on ne communique que par messagerie cryptée. Et il me raconte, en moyenne une fois ou deux par mois, ce qui se joue au niveau des villages, ce qui est en train de changer dans la vie quotidienne, les pactes qui sont passés avec telle brigade djihadiste pour acheter une relative paix sociale en échange de concessions sur le code vestimentaire, la nature des prêches du vendredi, etc., etc. Et alors, pour l'anecdote, la dernière aide qu'il m'a demandé, c'est de réécrire pour lui un dossier de candidature pour créer une porcherie. Lui qui est directeur d'école, mais son école est fermée. Vous savez qu'au Burkina Faso, il y a à peu près 3000 à 3500 écoles qui sont totalement fermées parce qu'il est impossible d'y enseigner le programme national. Et je lui dis quand même, c'est pas un peu risqué, une porcherie, non, t'inquiète pas. Donc voilà, je ne sais pas ce qui adviendra de son projet, mais c'est aussi pour faire toucher du doigt la nécessité de raconter une autre Afrique que celle des palais et des ambassades.
Michel Blanchet, vous voulez réagir?
Oui, vous parliez d'école au Mali, nous avons les mêmes soucis, 40%, je parle sur le contrôle là. De quelqu'un qui connaît très bien le sujet dans la salle, je pense que c'est près de 40 ou 50% des écoles qui sont désormais fermées au Mali. Alors la pandémie, des grèves pour non-paiement des salaires et surtout une mainmise progressive des religieux. On n'a pas évoqué le sujet, mais nous-mêmes à Sikasso, voyons quand même l'extension des madrassas et qui ont un effet extrêmement négatif sur le système éducatif malien. Et donc là aussi, on est sur près de 2 ans de Mali sans école, hein, et à Sikasso en particulier. Et c'est le terreau, on le sait bien, hein, de l'ignorance, et l'ignorance conduit à la servitude. Et donc c'est extrêmement inquiétant au Mali. Vous avez parlé tout à l'heure, si vous me permettez, vous avez parlé du peuple malien. Mais nous qui avons traversé de Sikasso à Agao et Tessalit, pour certains dans la salle, traversé toutes ces régions, Tombouctou et autres, c'est les peuples maliens qui, alors là aussi, avec un découpage qui remonte à une période anticoloniale ou coloniale. Et donc, on a aussi des mosaïques de populations. Vous parliez des Dogons avec les Peuls, et ça explique en partie, pas seulement, les conflits actuels.
Vincent Hugeux, Michel Blanchet disait tout à l'heure, pas de repli, pas de renoncement de notre côté. Alors, ça sera peut-être ma dernière question, avant qu'on laisse la parole aux questions du public, je voudrais qu'on puisse vous donner la parole. Pas de repli, pas de renoncement, c'est... On sait que l'opération Barkhane va prendre fin, ou a déjà pris fin d'ailleurs, on est en train de s'achever. Est-ce qu'il y a un renoncement français au Sahel et pour quelles conséquences ?
Officiellement, il n'y en a pas. Ce qui m'apparaît assez incontestable aujourd'hui, c'est que la doctrine française en la matière est indéchiffrable, pourvu qu'il y en ait une. Je prends un exemple très simple, et ça, ce sont des remontées d'échanges que j'ai avec mes interlocuteurs africains, quel que soit leur niveau socioculturel. Vous avez une vibrante dénonciation donc des derniers feux de la France-Afrique. On en finit avec les sommets à l'ancienne, qui se sont appelés France-Afrique puis Afrique-France, parce que ça sonnait quand même plutôt mieux. Au passage, je vous rappelle que le concept de France-Afrique, à l'origine, n'avait absolument rien de péjoratif. Et c'est d'ailleurs le très ivoirien Oufoué qui l'avait popularisé. Hein. Pour lui, c'était la perpétuation d'un lien privilégié, culturel, économique, etc. Je ferme la parenthèse. Bon. Et donc, instruit de ses bonnes intentions, je vais à Montpellier, théâtre du premier sommet Afrique-France, nouvelle formule, sans chef d'État, sauf un, l'hôte français, n'a pas nécessairement été très bien perçu de l'autre côté de la Méditerranée. Et le même Emmanuel Macron, lors du décès au front de Idriss Déby Itno, hein, le dictateur tchadien, lui-même parvenu au pouvoir au prix d'une rébellion armée contre son ancien ami Hissène Habré, est le seul chef d'État occidental à se précipiter aux funérailles et par sa présence a avalisé, je dirais même a adoubé, une succession militaire et dynastique au mépris de la constitution tchadienne. Donc comment voulez-vous être audible et crédible quand vous prêtez à ce point le flanc à la thématique, parfois simpliste c'est vrai, du deux poids deux mesures. Donc moi je reviens à mon propos de tout à l'heure, cherche politique africaine de la France désespérément. Si vous voulez... Un autre élément qui renvoie d'ailleurs à cette affaire du retrait de Barkhane, bien moins ordonné qu'on ne l'aurait voulu dans les états-majors et à l'Élysée, qui est en fait un retrait subi et précipité et non pas un retrait en bon ordre. Le mal est tellement profond qu'il donne un écho, une audience assez ébouriffante à ce fantasme qui voudrait que les soudards de Wagner feront mieux demain matin que les soldats de Barkhane. Je regarde les rapports des institutions internationales, des ONG les mieux implantées. Hélas, non. La situation sécuritaire est même en train de se dégrader.
La Wagner étant une milice russe, on peut le rappeler.
Oui. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est une passerelle entre mes deux centres d'intérêt du moment, c'est que bon, certes, Wagner émerge en 2014 hein, avec l'annexion de la Crimée et puis les opérations dans le Donbass, mais alerté par un ami centrafricain, dès 2018, je propose à l'Express une enquête sur ce qui est alors les prémices, non pas de l'irruption de la Russie en Afrique, mais son retour. N'oublions jamais que le génie politique du Kremlin, c'est d'avoir réactivé de vieux réseaux. Pour vous donner juste un exemple, le Premier ministre en titre, là il est malade en ce moment, mais du Mali, est quelqu'un qui a vécu 10 ans en Union soviétique et est diplômé de l'Institut de télécommunication de Moscou. Donc ils ont eu cette capacité à revenir. Et quand je suis à Bangui, je m'aperçois qu'il y a un soft power à la russe. Et oui, qui finance le concours Miss Bangui 2018 puis 2019 ? La galaxie de Evgeny Prigogine, donc le fondateur et le parrain, j'emploie à dessein un lexique mafieux de Wagner. Parce que Wagner, ce n'est pas que des mercenaires, c'est aussi 130 médias, chaînes Telegram, journaux, etc. Mes confrères et amis centrafricains m'expliquent quel est le barème. Un article à l'Algoire d'une initiative humanitaire de l'ambassade de Russie à Bangui, c'est autant. Un éditorial violemment francophobe, c'est deux ou trois fois plus. Un journaliste de radio talentueux que je connais depuis assez longtemps s'est vu offrir le quadruplement de son salaire et une voiture de fonction, la rénovation des locaux de sa radio s'il consentait à, etc., etc. Et on a, alors comment peut-on dire on n'a rien vu venir? Non, on a sous-estimé ce péril-là. Et j'ajoute, pour être tout à fait équanime dans la critique, en démontant de manière hâtive une opération de maintien de la paix qui s'appelait l'opération Sangaris, donc en 2016, on ouvre un boulevard aux Russes, et que, mieux encore, ou pire, si vous préférez, au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France soutient une requête russe qui consiste à suspendre l'embargo sur les armes, ce qui permet aux Russes, selon une méthode éprouvée, on entre par la livraison de matériel militaire. Avec le matériel militaire, il y a les instructeurs. Avec les instructeurs, il y a les mercenaires. Et avec les mercenaires, il y a la mise en coupe réglée des zones et des sites diamantifères et aurifères de la Centrafrique hier, du Mali aujourd'hui.
Comme je vous l'ai promis, je voulais vous laisser la parole aussi à la salle, à vos questions pour nos invités. Alors, il y a beaucoup déjà de questions. Alors, on a un micro qui va venir. On va essayer de prendre le temps de pouvoir vous laisser poser vos questions. Alors, relevez la main pour qu'on puisse voir. Alors, il y en a un là et puis quatre autres après. Allez-y, monsieur.
Merci. Bonjour. Aujourd'hui, les systèmes électoraux tels que nous les connaissons... Je suis ici. Les systèmes électoraux tels que nous les connaissons sont concurrencés dans le mode de désignation de nos dirigeants, que ce soit bien sûr avec Trump ou que ce soit en ce moment avec Bolsonaro. Bien évidemment, sur le continent africain, quelle est la part de responsabilité ou le rôle de la communauté internationale aujourd'hui en Afrique, avec des élections de plus en plus systématiquement contestées? Ça, c'est une question. L'autre, c'est plus une anecdote. Vous avez parlé de l'élection de Miss Bangui et j'étais à Bangui juste à ce moment-là, l'année dernière, et j'ai voulu assister à l'élection de Miss Bangui. J'étais dans l'hôtel, j'étais juste, suffisait de descendre juste en dessous pour aller voir. J'étais pas le bienvenu du tout, mais par-delà cette anecdote, toute la relation aujourd'hui sur le fait que la France n'a pas vu venir l'impact de Wagner dans beaucoup de domaines, dont le domaine de la désinformation. J'avais travaillé au Mali avant, maintenant en Centrafrique, et à nouveau j'allais retravailler au Mali, et on avait alerté, que ce soit dans le domaine des ONG, que ce soit avec l'ambassade de France, on avait alerté sur l'importance d'anticiper ce que l'on voyait venir à Bamako, avec un impact potentiellement décuplé du fait de la question djihadiste, du fait de la régionalisation du conflit. Malheureusement, est arrivé ce qu'il est arrivé. Bref, je referme la parenthèse et je reviens surtout donc à ma première question sur les systèmes électoraux.
Rapidement, le dévoiement des processus électoraux ne date pas des temps actuels. Je vais raconter une anecdote qui m'a été rapportée par Laurent Gbagbo soi-même, avant qu'il ne me poursuive en justice, mais on s'est revu après. Le premier intellectuel ivoirien qui ose, crime de lèse-majesté, défier le bélier d'Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny, dans les urnes, c'est le cofondateur du Front populaire ivoirien, donc Laurent Gbagbo. À J-4, il reçoit un coup de fil de l'ambassadeur de France à Abidjan, qui lui dit, cher Laurent, autant vous le dire tout de suite, vous ferez 18%. Et que croyez-vous qu'il advint? Il fit 18%. Bon, donc voilà, c'est juste un article assez ancien. Alors, ce qui se joue aujourd'hui me semble absolument central dans le devenir démocratique. Je rencontre très souvent des jeunes Africains qui ont un discours de dépit par rapport à l'exercice même du scrutin. Parce qu'ils me disent, ça sert à rien, les achats de vote, la fraude, l'intimidation. Enfin, pour ceux qui ont observé, par exemple, la succession du défunt Niasingbe Yadema, un ancien d'ailleurs tirailleur de l'armée française. C'était grotesque. Bon. Donc, on vous dit pourquoi ? Pourquoi s'exposer ? Pourquoi prendre des risques ? Puis, de toute façon, ma voix ne comptera pas. Et il y a une forme de discrédit des normes démocratiques qui est extrêmement préoccupante et qui explique en partie, j'y reviens une seconde, cette apparente fascination pour l'ordre kaki. Bon. Mais, là encore, je souhaite nuancer mon propos, c'est que ce que je sais aussi, pour l'avoir vu à l'œuvre dans de nombreux pays, vous avez des ONG locales qui, lors des périodes de campagnes électorales, font de la formation d'observation électorale. Pourquoi Abdoulaye Wad au Sénégal ne réussit pas à inverser le résultat de l'élection? Parce que le processus qui avait été mis en place à son profit en 2000 l'est à son détriment en 2012. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui ont été formés. J'ai assisté à des séances de formation qu'on envoie dans les bureaux et qui donnent instantanément les résultats par téléphone portable, par exemple, à des pôles de centralisation régionaux puis nationaux qui font que s'il y a fraude, elle sera absolument indubitable. Donc voilà, donc c'est ce combat-là qui est en train de se jouer. Et pour revenir à l'essence même de votre question, pour moi, la responsabilité de beaucoup d'institutions internationales, et notamment de certains bailleurs de fonds, c'est de feindre de croire à, par exemple, l'équité d'une élection. Moi, j'ai souvent ironisé, notamment dans un autre bouquin qui s'appelait Les sorciers blancs, enquête sur les faux amis français de l'Afrique, j'ai beaucoup ironisé sur les missions d'observation officielles, où, grosso modo, j'avais proposé une sorte de formulaire type, et il suffisait de remplir les blancs. En dépit de quelques incidents localisés, notamment A et A, l'ensemble du processus électoral peut être considéré comme clair et transparent, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Ces gens qui pouvaient être des avocats, des députés, ils étaient accueillis à J-2, voire J-1 dans la capitale. Le jour du vote, ils faisaient une petite tournée dans un rayon de 500 mètres à 1 km pour les plus courageux. Et on repartait dans l'autre sens. Et parfois, l'édite, je pense notamment à ce qui s'est passé au Gabon sous Omar Bongo, l'édite mission d'observation était financée par la présidence. Alors là aussi, vous imaginez l'impact dévastateur sur la crédibilité, encore une fois, du processus démocratique lui-même. Voilà, donc, et puis très rapidement, parce que vous avez fait une allusion qui m'avait semblé intéressante à une autre dimension, j'avais pris note rapidement à la volée tout à l'heure, les alertes, très important. Qu'est-ce qui se passe ? C'est d'ailleurs ce que disaient les experts américains au moment de l'aventure à Bagdad. La question n'est pas de savoir si le savoir existe, c'est-à-dire que les messages sont émis. Ils sont émis par des membres d'ONG, par des acteurs associatifs, par des diplomates, parfois, mais il n'est pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. C'est, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le Rwanda. Il se trouve que j'ai eu le privilège d'être Rwanda et d'y passer un certain nombre de semaines en 1994. L'occasion pour moi de rendre hommage à la grande absente donc scolastique Mukasonga. Vous avez sans doute éprouvé, comme moi, une déception à ne pas la rencontrer ici. Ben, il se trouve simplement qu'elle a été fauchée par le Covid, mais tout ça n'est pas bien grave, mais elle n'est pas en mesure de venir. Mais quand vous lisez le rapport du Clerc, donc ce rapport qui a été confié à une commission d'historiens, hein, dont le contenu est, à mon avis, à peu près incontestable, vous voyez ce que moi j'ai mesuré dans mes rencontres avec des gendarmes, avec des enseignants, avec des diplomates, etc. Tous les messages sont partis de Kigali. On savait tout du risque d'une dérive génocidaire du ce qu'on appelait le Hutu Power à l'époque, et notamment d'un cercle autour de Juvenal Habyarimana. Mais voilà, la lecture d'un François Mitterrand, la lecture d'un Hubert Védrine était précisément une lecture essentialiste, marquée par ce qu'on appelait le syndrome de Fashoda. En gros, le Rwanda aurait été le théâtre du combat éternel entre l'influence américano-britannique et le précaré francophone. Et donc, ce qui était dit était inaudible, mais en tout cas pas entendu. Donc l'exemple que vous donnez, bah, il n'est pas propre au processus électoraux, hélas.
Alors il nous reste 5 minutes, on va essayer de faire question courte, réponse courte, parce que pour essayer de vous donner la parole.
C'est une question
Attendez, on va vous donner le micro. Alors, ça va être difficile de faire réponse courte.
Livré à un exercice impossible, je vais essayer d'être court sans être outrageusement simpliste. Que me disent les acteurs associatifs en Afrique aujourd'hui ? Très critiques envers les travers de la puissance chinoise. Ils me disent qu'il n'y a aucune raison qu'au prétexte que Pékin n'a pas été un acteur colonial chez nous, on accepte de la Chine ce qu'on refuse des anciennes puissances coloniales. J'ai vu très souvent, c'est le cas en République démocratique du Congo, débarquer des Chinois avec engins de chantier, ingénieurs et ouvriers, donc impact sur l'économie locale, 3 francs CFA, commencer à explorer et à exploiter les ressources minières, par exemple, sans permis, sans autorisation, en graissant la patte au gouverneur, au ministre, etc. Eh bien, ça ne va pas tenir très longtemps. Et d'ailleurs, vous aurez sans doute observé qu'il y a eu ça et là, c'était le cas en Tanzanie, ça a été le cas en RDC également, à l'échelon local, sinon des émeutes, du moins des manifestations très hostiles. Qu'est-ce qui fait le charme de Pékin pour un despote africain plus ou moins bien élu ou pas élu du tout ? C'est l'inconditionnalité. Inconditionnalité politique, on ne va pas aller regarder l'état de vos culs de basse fosse et de vos cachots pour savoir si oui ou non on finance le barrage et l'hôpital ou l'échangeur autoroutier, et l'inconditionnalité économique qui conduit à un réendettement tragique de l'Afrique. On a saigné à blanc l'Afrique au prix de plans d'ajustement structurel extrêmement douloureux, qui ont d'ailleurs contribué par exemple à l'affaiblissement des armées des pays africains. Bon. Et après cette cure d'amaigrissement sauvage, on est en train de réendetter l'Afrique. Et le réendettement, c'est la dépendance. C'est-à-dire que l'impérialisme chinois, il n'est pas militaire, mais il existe. Et quand vous considérez que, par exemple, il y a quelques années de cela, la Chine a consenti au Congo-Brazzaville un prêt sur 3 ou 4 ans qui était l'équivalent du budget annuel du pays, la messe est dite, et avec des crédits parfois à taux zéro, voire à taux négatif. Donc c'est une stratégie délibérée d'un pays, la Chine, qui a besoin d'espace, parce que vous avez aussi, et c'est un phénomène dont vous entendrez parler dans les années qui viennent, des locations d'immenses surfaces agricoles pour délocaliser la culture, par exemple céréalière. Et puis évidemment, les métaux rares, enfin tout ce que vous connaissez par cœur. Donc voilà, loin de moi l'idée de faire à la Chine le procès de lui reprocher ce que nous avons fait, nous, Français, pendant tant de décennies. J'ai rencontré un jour un ancien ministre du Niger de l'énergie qui m'a expliqué que très longtemps, il ignorait la quantité de minerai d'uranium enlevé par ce qui était à l'époque Areva. Bon, ça aussi, ça laisse des traces. Hein. Voilà, donc, mais il y a une prise de conscience dans les sociétés civiles africaines des travers du tout Chine. Ça, c'est clair.
On prend le temps pour une dernière Merci. Question.
Oui, alors...
Vous avez évoqué le Gabon, monsieur. Vous avez évoqué le Gabon. Que pensez-vous de la paix relative qui règne dans ce pays, malgré la corruption Et est-ce que le djihadisme a déjà infusé dans ce pays ou pas
Là aussi, ça va être compliqué de faire court, je vais essayer. Alors d'abord, il ne faut jamais oublier que Ali Bongo est le président d'honneur de la Société islamique du Gabon. Ne jamais oublier que son père, prénommé à sa naissance Albert Bernard, est devenu Omar lors d'une conversion circonstancielle qui lui permettait de bénéficier des largesses de Muammar Kadhafi un certain temps. C'était en 1973, si ma mémoire ne me trahit pas, que certes la confession musulmane est extrêmement minoritaire au Gabon, que comme dans beaucoup d'autres pays, côtiers ou pas, elle était portée notamment par une minorité libanaise. Le Gabon pour le moment n'est pas considéré comme l'un des clignotants rouges vifs des pays comme le Bénin, le Togo et même la Côte d'Ivoire, dans sa partie septentrionale, sont considérés comme vulnérables. Et même le Ghana nourrit des inquiétudes légitimes là-dessus. Alors, la paix relative au Gabon, vous savez, moi je suis interdit de séjour dans ce pays depuis quelques années, notamment pour ma couverture des élections frauduleuses, car sachez-le, soyons clairs, Ali Bongo Ondimba, fils de son père, n'a été élu ni en 2009 ni en 2016. Bon. Il s'est quand même passé en 2016, on parlait de mascarades électorales tout à l'heure, quelque chose de quasiment romanesque. Vous avez un candidat, Bongo, qui est devancé par un ancien, d'ailleurs, cacique du régime, hein, Jean Ping, dans la quasi-totalité des provinces. Que faut-il pour qu'il l'emporte d'un souffle ? Il faut une participation de 95% dans la fameuse province du Haut-Ogooué, fief clanique et familial, alors que la participation moyenne dans le pays est de 40%. Prodige. Deuxième prodige, il faut que le candidat Bongo obtienne plus de 92%. Et là, je reviens à ma formule tout à l'heure, que croyez-vous qu'il advint, etc., etc. Et souvenez-vous quand même que l'agitation postérieure à ce coup de force n'a pas été anodine. Hein. Il y a eu mort d'homme aussi. Donc, mais c'est vrai que par rapport à d'autres pays, c'est une paix, à mon sens, trompeuse parce qu'elle est, elle est fondée sur un pacte social qui lui-même est adossé à la rente pétrolière. Vous savez comment on appelle le pétrole hein, dans les bas quartiers des grandes villes africaines, la merde du diable. Parce que le bon sens populaire sait que c'est un bienfait qui est de l'ordre de la malédiction. Alors on vous fait des colloques à ne plus... cet amphi ne suffirait pas à empiler tous les rapports sur les colloques, sur la diversification, le retour de l'agriculture. Mais les élites, ont, dans ces pays, c'est pas le cas au Congo-Brazzaville, par exemple, ont toutes cédé à la tentation toxique du rentier. Donc voilà. Je n'appelle pas le malheur sur nos épaules et encore moins sur celle des Gabonais. Hein, mais je pense que cette stabilité est trompeuse et qu'un jour viendra où il y aura là aussi une rupture dont j'espère qu'elle sera aussi peu meurtrière que possible. Elle ne pourra pas être pacifique.
On aimerait vous écouter encore pendant longtemps pour nous parler de tous ces conflits, mais malheureusement, il nous faut qu'on rende la salle. Merci infiniment Vincent Hugeux, merci Michel Blanchet merci. D'avoir pu nous éclairer sur la réalité des conflits sur le continent africain. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne fin de foire.